Donc, continuer dans notre étude, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons prendre les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre. Mais juste un rappel, le chapitre commence par ce verset-là. Il n'y a donc maintenant, donc ça veut dire qu'il y a un moment précis dans le temps, maintenant, il y a un moment, il y a un maintenant, il doit y avoir un maintenant dans la vie de chacun d'entre nous, un moment où j'ai reçu Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que les choses ont été réglées. C'est comme une facture. Je dois jusqu'au moment où c'est encaissé, après je dois plus. Il y a un instant où ça bascule entre c'est moi qui ai une dette et c'est moi qui suis libre. En fait, et pour vous et pour moi, le moment précieux, c'est quand ils prennent le tampon et ils marquent payé sur la facture. Et vous savez que le mot payer, eh bien c'est justement ce mot-là que Jésus a prononcé sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'était le mot qui était employé à l'époque pour dire tout est réglé. Hein? Télétestai. C'est réglé, c'est payé. Et donc il y a un moment où ça peut être dit. Et les factures avec ce tampon-là, ben moi, je peux collectionner autant que je veux. Hein. C'est les autres qui me gênent. Et puis, le chapitre se termine avec ce verset-là. J'ai laissé une partie au milieu. Vous pouvez regarder, hein, mais il dit, j'ai l'assurance que rien ni personne, hein, c'est ça que l'équivalent de ce qu'il dit là, j'ai l'assurance que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand je lis le passage entier, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il dit, j'ai l'assurance, je sais, il n'y a pas de doute, rien ne peut. Donc il commence par dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et puis ça termine avec, et rien ne pourra le défaire. Rien ne pourra, tout ça, on sait que tout ça, ça a été initié, motivé par l'amour, et comme rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ben, il n'y aura rien pour défaire tout cela. Et donc ce soir, nous allons parler justement de l'assurance du salut. Hein? C'est une vérité. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont essayer de semer le doute. Il y aura toujours Satan pour semer le doute. Il y aura des doctrines qui vont arriver, qui vont dire « oui, mais pour... » Et puis après, il y a toutes sortes de moyens. Alors, il peut y avoir certains qui disent « mais tu es sauvé, mais si tu pèches, après il faut confesser. Si ce n'est pas confessé, tu es perdu. » Il y en a qui disent « si tu n'as pas confessé tes péchés juste avant de mourir, ben, tu vas en enfer. » Il y en a qui disent « si tu pèches beaucoup, ça ne va pas être bon. Hein, des accidents, ça va, mais si tu vis une vie de péché, tu perds ton salut. » Il y aura toutes sortes de formules qui vont être avancées, basées sur plus ou moins des versets. Mais ici, ce chapitre, tout seul même, eh bien, il a été écrit pour nous rassurer. Hein. Bien, il y a bien d'autres versets, et une des... dans la... les principes de l'interprétation de la Bible, hein, l'herméneutique, dans cette doctrine de l'interprétation de la Bible, eh bien, on base toujours la doctrine sur des versets clairs. On ne base pas de doctrine sur un verset qui est peu clair ou qui contredit des versets clairs. Hein, donc c'est un principe, c'est la méthode que j'adopte moi-même aussi, hein, mais c'est un principe de herméneutique, c'est qu'une doctrine n'est jamais basée sur un seul verset, elle est basée sur un grand nombre de versets et sur des versets clairs. Donc s'il y a plein de versets, quand on les interprète, ça veut dire ça, et puis il y a un autre qui en dit, on a l'impression que ça veut dire le contraire, on va sur le principe, ça ne peut pas dire le contraire, Dieu n'a qu'une seule parole, et donc on se base sur ce qui est clair. Hein, personnellement, j'adopte la méthode d'interprétation littérale, à moins que ce soit impossible, et aussi sur on base une doctrine sur les versets clairs. Donc, je vais admettre qu'il y a quelques versets qui sont tout seuls, sont peut-être difficiles à comprendre, ou qui pourraient même donner l'impression du contraire, mais il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'assurance du salut. Donc, pour moi, je me base sur les versets majoritaires et clairs. Maintenant, la mauvaise réaction, hein, et c'est pour ça que certains sont gênés, parce qu'il y en a qui vont dire, si on croit, on est sauvé, peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas le défaire, alors moi, après, là, je fais ce que je veux. Moi, je dis, celui qui parle comme ça, il n'a jamais compris le salut, hein, il n'a pas compris... Il n'a pas saisi ce que Jésus a payé pour que je sois sauvé. Hein? Si je sais que quelqu'un a donné sa vie pour moi, et puis après moi je dis, maintenant je peux l'oublier, hein? Maintenant ça y est, il m'a sauvé, je peux l'oublier. Je dis, mais c'est une drôle d'attitude. Hein? C'est une attitude pas d'un cœur régénéré. Personnellement, je traite une personne selon la vie qu'il mène et pas seulement selon la profession qu'il fait. Si tu te comportes comme un inconverti, je te traite comme un inconverti. Si tu te comportes comme un enfant de Dieu et tu déclares être enfant de Dieu, alors j'accepte. Parce que je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Donc le Seigneur a dit, regardez les fruits. Hein? Voilà. Donc l'assurance du salut... pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, pour les autres, il n'y a pas moyen de l'avoir. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des religions ne sont jamais sûres s'ils sont sauvés. Alors, Romains 8, verset 30, il dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, ce qu'il me permet de dire, hein, puisque... s'il les a appelés, ils sont justifiés. S'ils sont justifiés, ils seront glorifiés. Donc, c'est pour dire que ceux qui ont été appelés, sont glorifiés. Hein, si à partir du moment que la première étape est vraie, hein, c'est le Seigneur s'est adressé à moi, il m'a parlé, j'ai entendu son appel, j'ai répondu, les choses sont enclenchées et le reste se fera. ma part, c'est de répondre à l'appel, sinon tout le reste, c'est lui qui le fait. Hein. Il dit, il a prédestiné, il a appelé, il a justifié, il a glorifié. Et c'est pour ça que c'est sûr, parce que c'est tout son œuvre. Ce ne sont pas des choses que je peux faire, c'est des choses que lui fait. Et c'est pour ça que c'est sûr. Alors, je vais voir, il va faire toute une série d'arguments pour montrer que notre salut est sûr. Alors déjà, au verset 28 et 29, verset 29, il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. » Il dit donc, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. » Donc rapidement, parce que ce n'est pas mon sujet ce soir, la prédestination, mais la prédestination que nous trouvons dans la Bible, c'est celle pour l'enfant de Dieu, ceux qui sont sauvés sont prédestinés à être à l'image de Christ. Hein? n'y a pas. Je n'adhère pas à une prédestination où déjà, avant même que j'existe, Dieu a, déjà il a décidé que moi je serais sauvé, peu importe. Et puis, contrairement à ma volonté, même si je n'ai pas exercé de volonté, lui il a décidé, donc c'est fait. Parce que si je crois qu'il y a des gens qui sont prédestinés au salut, eh bien je dois croire que les autres sont prédestinés à la perte. Donc si c'est comme ça, ben alors, pourquoi est-ce qu'il nous demande de choisir ou de faire quoi que ce soit, hein, s'il a tout décidé, déjà décidé. Hein, donc, moi, mais là, il nous dit, donc il parle déjà, hein, au verset 28, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, il dit, mais bon, il parle des desseins, il parle de prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance. Alors, eh bien, justement, bon, je vais arriver là-dessus, un peu plus loin là. Donc, je vais vous expliquer comment on voit cette prédestination. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous dit que ceux qu'il a prédestinés, eh bien, ils seront à l'image de Dieu. Quand Dieu prédestine, quand Dieu choisit, quand Dieu appelle, eh bien, ils vont être à l'image de Dieu. Hein, c'est son but. Peut-être rapidement, on pourrait revoir déjà ce passage dans 1 Jean. Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2, il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Hein? Donc, c'est que nous portions son image. Nous sommes enfants de Dieu maintenant, mais un jour, nous allons porter son image, c'est-à-dire que nous aurons un corps comme le sien, nous aurons toutes les capacités nouvelles qu'il a eues, hein, après sa résurrection, et nous aurons cela. Hein, pour pouvoir mener la vie qu'il nous réserve. Donc, verset 29, il dit, car tout ce qu'il a. Donc, verset 28, excusez-moi, donc là j'ai mis 29, mais c'est 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Toute chose concourt au bien. C'est-à-dire que une fois que nous sommes enfants de Dieu, eh bien après, Dieu commence à travailler avec les événements, avec les circonstances, avec ma personnalité, avec tout ça, pour le bien. On emploie bien l'expression en français, un concours de circonstances. Ça veut dire que tout est allé dans le sens que ça s'est arrangé. Il y a eu un concours de circonstances, mais en général, c'est un peu lâche, c'est un coup de chance. Mais chez Dieu, il contrôle les concours de circonstances. Hein, c'est ça la différence. Et donc il dit, toute chose concourt, que ce soit dans la bénédiction, et Philippiens 1, 4, 19 dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc Dieu, dans la bénédiction, tout concourt au bien, et que même l'épreuve, hein, même dans l'épreuve, tout concourt au bien. Hein, 1 Corinthiens 10, 13, hein, ne serons pas tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, mais il aura toujours un moyen, il trouvera toujours un moyen d'en sortir. Hein, il y a toujours, on peut dire que les épreuves sont toujours dosées, hein, pour que il n'y ait pas de perte. Hein, donc même dans nos épreuves, eh bien elles sont pas, il permettra pas qu'elles soient au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ce sera pas au-delà de ce que il s'en servira pour nous donner une issue. Et en général, lorsque nous traversons une épreuve, notre foi est affermie. Sans Jésus-Christ, hors de la foi, hein, dans le monde, lorsqu'ils traversent une épreuve, en général, ça les secoue. Hein, quand ils passent par un moment difficile, ça les secoue. Le peu de foi qu'ils ont, peut-être, et le peu de croyance qu'il leur reste, eh ben, ils le perdent. Et combien ont dit, moi, depuis que je crois plus. Mais une fois qu'on est en Jésus-Christ, ces circonstances même désagréables, eh bien, sont là pour nous affermir. Alors, ce qu'il a ensuite, c'était le verset que j'étais en train de lire, donc, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et là, c'est le passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Il est connu d'avance. Pour comprendre ce connu d'avance, dans 1 Pierre, il dit élu selon la préscience de Dieu. Élu, ça veut dire choisi. Hein, donc, il parle des croyants. Et il dit qu'ils ont été élus selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est-à-dire, c'est cette capacité que Dieu a à de connaître les choses avant qu'elles arrivent. Hein? Donc, comment est-ce que Dieu a choisi? Ben, parce qu'il sait comment les choses vont se passer, il peut déjà les prévoir, et puis quand elles arrivent, ben, c'est tout normal. C'est un peu comme ça que beaucoup de choses... c'est comme on vient de terminer avec Joseph. Il met à l'histoire de Joseph, quand on voit seulement le côté terrestre de l'histoire, eh bien on se dit c'est pas évident. Mais une fois que les choses se sont arrangées, Joseph dit mais Dieu a fait que toutes choses se passent pour nous sauver. C'était Pharaon faisait ce qu'il avait envie de faire. Les frères de Joseph faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, ils avaient dans le cœur. Joseph, il subissait ce qu'il subissait. Potiphar faisait ce que Potiphar faisait. La femme de Potiphar faisait ce qu'elle faisait. Le geôlier faisait ce qu'il avait à faire. Tout le monde faisait leur propre volonté indépendamment de tout autre. Mais à la fin, ça s'est passé comme Dieu a voulu. Hein? C'est selon la préscience de Dieu. Comme Dieu sait à l'avance, eh bien, comme il sait comment les choses vont se passer, il peut les prévoir et il n'y a pas de surprise. Donc, il peut avoir un plan qui est sûr de marcher, basé sur cette préscience. Et donc, il nous dit, donc, élu selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu voit à l'avance. Et les choses se passent et puis et tout se passe bien. Alors si c'était comme ça, quand je ne cherchais même pas Dieu, quand je le désirais même pas, peut-être que je ne savais même pas qu'il existait, les choses ont pu bien se passer, combien plus une fois que nous sommes à lui et que nous sommes ses enfants. Et alors il dit, et je leur donne la vie éternelle, hein, dans Jean chapitre 10, dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » C'était Jean chapitre 10, il parle de Jésus le bon berger et nous les brebis. Et il dit « Moi, la vie éternelle, je la donne et elles ne périront jamais. » Comme si c'était nécessaire de le dire, hein, quand on dit la vie éternelle, il dit « Non ». C'est pour que vous soyez sûr, que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Il faut être plus fort que Dieu, hein, pour prendre... ça, avec un petit enfant, combien de fois on fait le jeu, là, on met la bille dans la main, on ferme la main, et il essaye de la voir. Ben, s'il fait ça avec papa, il n'a aucune chance. Hein, c'est, éventuellement, il rentre son petit doigt là-dedans, tout ça, et papa le laisse réussir. Mais sinon, il ne peut pas. Il faut être plus fort que celui qui... quand Dieu nous met dans sa main, eh ben, il faut être plus fort que Dieu pour pouvoir enlever. Il dit, personne ne ravira de ma main. Donc, il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, hein, donc dans sa préscience, il les a connus. Il a pu les prédestiner. Il dit, bon, comme je sais que ça va se passer comme ça, ben voilà, je prévois, ils seront mes enfants, j'ai un plan, j'ai un projet. Et quelqu'un a illustré la chose en disant, quand tu arrives à la porte du ciel, à l'extérieur, il y a marqué, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Hein? Mais quand tu rentres par la porte, et tu regardes derrière la porte, la même porte, mais tu regardes de l'autre côté, il dit, prédestiné avant la fondation du monde. C'est que, voilà, il n'y a pas eu de surprise. Hein? C'est pas d'un coup, Dieu dit, hein? Dieu, seul, il pensait à autre chose que servir Dieu. Seul, il pensait que du mal, à détruire, démolir. Mais Dieu avait, il a dit à Barnabas, Il a dit, moi, j'ai prévu des choses pour cet homme-là. Et puis, les choses se sont réalisées. Hein. Donc, vous savez, on est entre les mains d'un... Vous savez, c'est extraordinaire. C'est d'avoir un Dieu qui peut contrôler les choses tout en laissant chacun libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est... Hein. Donc... Premièrement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même, rien que ça, ça suffirait normalement. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, et on a déjà lu, prédestinés à être à l'image de son fils. Après le verset 31, Romains 8, 31 nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu veut, si Dieu me veut, qui est-ce qui peut vouloir autre chose, hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il ajoute, pour vous dire à quel point il vous veut, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, lui qui n'a point épargné son propre fils, il aurait pu sauver son fils, il aurait pu ne pas donner son fils, il aurait pu pas l'envoyer, il aurait pu... Il était capable de le faire. Il n'y a personne qui l'a forcé. Hein. Il n'avait pas le couteau au cou quand il a laissé mourir Christ. Il aurait pu à n'importe quel moment. Mais il n'a point épargné son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet. Et pour qu'il le fasse, il fallait qu'il soit assez sûr de son projet. Hein. On ne sacrifie pas son fils pour un truc que je dis, ouais, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Hein? Il dit, donc rassurez-vous, il n'a point épargné son fils. Deuxièmement, il l'a livré pour nous tous. Hein? Il l'a laissé mourir pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il était jusqu'à ce point-là, alors qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il ne va pas aller jusqu'au bout, hein? Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je crois que c'est Romains 5, 8 et 9. Romains 5, 8 et 9, il dit, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il a donné son fils pas après que j'ai cru. Il a dit, bon, je vais voir s'il croit et puis après je vais voir si je donne mon fils. Non, non, c'est avant que nous le croyions qu'il a déjà donné son fils, mais il ajoute au verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, ne serons-nous pas sauvés par lui de la colère ?» Il dit, s'il l'a fait quand on était pécheurs, alors vous voyez, il n'y a rien qui le retient une fois que nous sommes à lui. Hein. Comment ne le donnera-t-il pas toutes choses? Donc l'apôtre Paul, il vivait dans cette assurance. Hein. Alors, toute chose concourt au bien. Ce qu'il a connu d'avance, il est prédestiné à être à l'image de son fils. Troisièmement, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein, pour vous rappeler des limitations de Satan. Hein, quand c'était question Satan, il aurait voulu attaquer Job, mais il ne l'a pas pu faire sans l'autorisation de Dieu. Hein, et puis il s'est arrêté à la limite. Bon, il était jusqu'à la limite, mais il s'est arrêté à la limite que Dieu lui a fixée. Donc, il ne peut pas. Hein, si Dieu ne le laisse pas, il ne peut pas. Et Dieu a dit, j'ai payé trop cher pour perdre. Après, verset 33, donc Romains 8, verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera ceux qui ont été choisis par Dieu? Hein? C'est Dieu qui justifie. Il dit alors, c'est pas un avocat qui me justifie, c'est pas un ami, c'est pas le pasteur, c'est pas un saint, quelqu'un. Mais c'est Dieu qui justifie. Justifier, ça veut dire déclarer juste. Alors, celui... Hein, J'ai un problème avec Guy. Et Guy Et puis alors quelqu'un dit, ouais, mais tu vois, tu as un problème avec Guy. Et Guy, il dit, non, il n'y a pas de problème avec Steve. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, mais si, tu as un problème. Non, j'ai pas de problème. Ben, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors si j'ai un problème avec Dieu, et après quelqu'un va voir Dieu, et Dieu dit, non, j'ai pas de problème, tout est réglé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Hein? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hein? Regarde, lisons Zacharie, chapitre 3, pour voir un peu comment ça marche. Zacharie, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Hein? C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 3. Alors, je lis les cinq premiers versets, là. Zacharie, chapitre 3, et verset 1. Donc, c'est une vision de Dieu à Zacharie pour lui montrer comment ça se passe. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est toujours Jésus, hein. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà la situation. Hein? Donc il y a Josué, c'est un homme. Il n'est souverain sacrificateur, mais c'est un homme. Qui est pécheur. Il y a Jésus d'un côté. Il y a Satan. Et Satan est là pour accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Donc, Josué, souverain sacrificateur, vêtements sales, impurs, devant Dieu. Satan dit, regarde-le, il est sale. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et voilà. Ah, qu'est-ce que Satan, qu'est-ce qu'il peut dire après ça? Il dit, il est sale, je le règle, je le justifie, je le purifie, je lui change son vêtement. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Ben, Satan, il part bredouille. Il ne peut pas faire autrement. Il dit, c'est ça qu'il veut dire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors si lui, il est là, il dit, moi, non. Tout ça, ça a été réglé hein, sur la croix. Plus rien. C'est Dieu qui justifie. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le Dieu qui nous a tant aimés. Le Dieu qui a livré son Fils. Eh bien, c'est lui qui nous justifie. Qui nous déclare juste. Romains chapitre 4 et vers la fin du verset 24. Donc Romains chapitre 4, et bon, je vais lire à partir du verset 23 pour avoir le début de la phrase. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Sauveur, qui a été livré, notre Sauveur, qui a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Donc il est mort pour notre péché et il a été livré et il est ressuscité pour notre justification. C'est déjà fait. Tout est réglé. Il dit alors, qui? Hein, il y a un accusateur, c'est sûr, mais il ne peut pas aller loin. Donc, premièrement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxièmement, ce qu'il a connu d'avance, il était prédestiné à être à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et verset 34, il dit, et qui les condamnera? Qui va essayer de les condamner? Verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Voilà. Vous allez condamner pourquoi ? Christ est déjà mort et il est ressuscité. Donc c'est réglé. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc c'était réglé, il est mort. Et puis il a eu la victoire. Hein, quand il est ressuscité, ça veut dire que c'était terminé. Tout a été fait. Et qu'est-ce qu'il est maintenant ? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il est à la droite de Dieu. Donc, qui est-ce qui... L'avocat, hein, il nous dit dans 1 Jean chapitre 2, et verset 1, il dit « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » Nous avons un avocat, nous avons quelqu'un qui est là, et qui est à la droite de Dieu et qui défend. Il dit « qui va pouvoir condamner ?» Donc il y a le juge, Dieu. Il dit, c'est moi qui justifie. Comme si ça ne suffisait pas, il y a le Jésus qui est à la droite et qui dit, je suis mort pour lui. Et il intercède, il dit, ça, celui-là est à moi. Je suis mort pour lui. C'est réglé. Donc, vous voulez aller où, hein? Tout ça, c'est tellement garanti. Vous voyez, dans l'assurance du salut, eh bien, qu'est-ce que nous avons vu au verset 33 ? C'est Dieu qui justifie. Déjà, rien que ça, ça suffirait. Parce que si c'est Dieu qui justifie, hein, si c'était saint quelqu'un, après on pourrait dire, oui, mais bon, quand même, je connais deux, trois défauts sur ce saint-là. Si c'était un prophète, quel prophète n'a pas péché ? Si c'était une performance, et qui a une performance parfaite? Non, c'est Dieu qui justifie. Deuxièmement, il nous dit que c'est le Fils qui intercède. Et puis troisièmement, eh bien, nous avons vu la semaine dernière, chapitre 8, verset 27, il dit, celui parlant de l'Esprit d'eux, celui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors vous avez les trois personnes de la Trinité qui sont là pour nous défendre. Vous savez, c'est plus que garanti. Et il n'y a absolument rien qui dépend de l'homme. Tout dépend de Dieu. C'est ça la différence avec les plans de salut des hommes. Bien sûr, quand je vois tout ça, et je vois que tout ce que Dieu a fait pour moi, eh bien, c'est un peu ce qu'on a chanté tout à l'heure, devant tant d'amour. Je crois, j'aime et j'adore. Qu'est-ce que tu veux faire autre ? S'il a fait tant que ça pour moi, s'il a pourvu tout cela pour moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est sinon de vivre pour lui. Et verset 37, Romains 8, 37, il dit, il y a, avec tout cela, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. En fait, plus que vainqueurs, c'est parce que le mot super vainqueur n'existe pas en français. Ils ont mis plus de vainqueurs. Mais en fait, c'est ça, la traduction littérale du mot, c'est super vainqueur. Déjà, vainqueur, c'est pas mal, hein. Mais super vainqueur, ça veut dire que c'est les All Blacks qui jouent du rugby contre les autres. Hein. Il n'y a aucune chance. C'est super vainqueur. C'est plus que cela. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on pense à cela, après il termine, mais il dit, alors j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les bons et les mauvais, ni les dominations, c'est-à-dire les pouvoirs dans les airs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances démoniaques, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, même pas moi, parce que je suis une créature parmi les créatures, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne peux même pas aller dire à Dieu, moi, je veux aller à la perdition. Il dit, tu ne t'appartiens plus. Tu n'es pas à toi, tu es à moi. C'est moi qui décide maintenant. Il y avait un moment où tu pouvais faire le choix. Tu choisissais ou Dieu ou pas. Mais une fois que tu as choisi, c'est parti. Hein, c'est pour l'éternité. Donc, pourquoi est-ce que je sais que je suis sauvé? Pas parce que je suis bon, pas parce que j'ai toujours été fidèle, c'est parce que Dieu le dit. Hein. Je sais que je suis sauvé, c'est parce que Dieu le dit, et pas autrement. Là où il dit, dans notre relation avec Dieu, elle n'est jamais brisée. C'est pour ça que tout à l'heure, on chantait, non, jamais tout seul. La relation avec Dieu, elle n'est jamais brisée. La communion avec Dieu peut être brisée. Et ça, c'est par mon péché. La communion est brisée. Moi, je peux ne plus parler à ma femme, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis plus marié. Je peux ne plus parler à mon père, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas son fils. La relation, elle continue. C'est seulement, je ne lui parle pas ou je lui parle, je me comporte bien, je ne me comporte pas bien, ça c'est autre chose. Mais sinon, je suis toujours son fils, je ne peux pas le défaire. C'est ça l'inconvénient avec... c'est la science maintenant qui compose des gens pour dans un tube à essai, et puis ils font une naissance. Le pauvre enfant, il ne sait plus à qui il appartient, hein, il ne peut pas savoir d'où il vient. Et c'est des drôles de manipulation et... On ne se rend pas compte, mais on va se créer des problèmes pas possibles. Mais parce que c'était pas prévu comme ça. Hein? Mais là, avec Dieu, une fois que je suis à lui pour toujours. Maintenant, je peux être un enfant obéissant, je peux être un enfant désobéissant, je peux être un enfant fidèle, je peux être infidèle. Je peux être reconnaissant ou je peux être ingrat. Ça, c'est autre chose. Et ça affecte la communion. Mais sinon, pour ce qui est de la relation, eh bien, elle est sûre et elle n'est jamais brisée. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, je t'ai aimé quand tu étais loin, maintenant je t'aime aussi quand tu es près. Et c'est le même amour. Et c'est ça le message, le beau message de l'Évangile, qui nous donne de l'assurance. Et puis, bien sûr, qui nous protège contre pas mal de problèmes psychiques qu'on pourrait avoir, où on a du doute où on va, ce qu'on fait, pourquoi on est là, où on... ça nous rassure énormément. Et l'être humain, quand il sait pourquoi il est là, et où il va, et ce qui l'attend, eh bien, il se comporte mieux. C'est une meilleure santé psychique. Hein. Et Dieu le sait, c'est notre Créateur, il sait de ce quoi nous avons besoin. Et c'est pour ça qu'il a pris la peine de nous assurer. Et bien sûr, Satan sait aussi combien c'est utile. C'est pour ça qu'il l'attaque. Et c'est pour ça que lui aussi, hein, il est toujours... Dès que vous voyez Satan attaquer quelque part, vous dites qu'il doit avoir quelque chose de bien là. Hein? Et où les vautours s'assemblent, eh bien vous savez qu'il y a un corps. Là où vous voyez Satan qui commence à tourner, vous dites qu'il y a quelque chose là. Et donc quand les religions commencent à attaquer certaines choses, et commencent à nier certaines choses dans la parole de Dieu, je dis ah, ça doit être important. Et donc, moi, je deviens attaché à cette chose. Voilà. Prions.